also do need to do an end-to-end test.
March 24th, 2014, Collier Room from noon to 1:30, new GTLD program updates followed by collision.
Clip it here, the mic. Here.
Yes.
Okay.
Just
Hello. Hello everyone.
Bonjour à tous. Oh, elle est là-bas. Bonjour. Quelques minutes encore et nous allons commencer.
So we all
if you want or if you can no,
no.
Just sit
in. I mean it's a lot.
I think just if the questions are useful.
With, yeah, or just answer.
Okay.
Yeah, you can answer.
Okay, so you'll be standing there?
Yeah, I'll just ask you the question.
Okay.
Sorry about the delay, everyone.
Please give us a couple more minutes to get the presentation up.
Excusez-nous du délai. Donnez-nous quelques minutes pour que nous puissions organiser la présentation.
Are we ready? All right, good afternoon.
Good afternoon, everyone.
Bon après-midi à tous.
Thank you for joining us today. This is the new GTLD program update session.
Je m'appelle Kramer Paspas.
Donc je suis responsable. Si vous connaissez notre webinaire, vous connaîtrez. Malheureusement, Christine ne peut pas être avec nous à cette réunion de Singapour. Je vais mener cette réunion aujourd'hui pour elle. Laissez-moi vous présenter Francisco Arria, Karen Lenz, Erin Hickman, Christina Florence. Et j'espère que Nigel est aussi ici, qui vont faire cette présentation avec moi aujourd'hui.
So we have a lot of updates planned for you today.
Je vais commencer en vous donnant un résumé des accomplissements de ce que nous avons fait depuis Buenos Aires. Et ensuite, Christina et moi vous donnerons un rapport de progrès. Et Francisco vous parlera de ce qui se passe entre dans la collision des noms. Et ensuite, nous parlerons des mécanismes de soutien. Et ensuite, nous aurons une présentation sur les IDN-TLD, les variants IDN-TLD. Elle parle. Cela fait donc 4 mois depuis Buenos Aires. Si vous voulez être patient avec moi pendant une minute, on va regarder un petit peu où on en était il y a 4 mois. À Buenos Aires, il y avait 400 applications, candidatures, qui ne pouvaient pas aller de l'avant. Je pense que la moitié des candidatures actives avaient été invitées au contrat. Et on en a signé 144, c'est un bon chiffre. Mais je pense que nous savons très bien que nous aurions pu faire un peu mieux. Ensuite, nous regardons les GTD qui ont délégué. Le chiffre en était de 24. Regardez ces chiffres sur l'écran. Voyez-vous, nous en sommes aujourd'hui. 358 contrats qui ont été signés depuis à vendredi la semaine dernière, disons. Regardez les testings de prédélégation. 200 et quelques de ces candidatures, 266 candidatures y sont passées. 182 nouveaux GTLD ont été délégués à aujourd'hui. De bons chiffres, de bons progrès. On n'a pas fait cela. Tout le monde a contribué à cette réussite depuis Buenos Aires. Je vous remercie pour tout le bon travail.
For a minute longer and talk.
On va parler des accomplissements que nous avons accomplis, donc nous avons fait depuis Buenos Aires. 400 applications qui ne sont pas allées de l'avant à cause du conseil GAC. À cause de deux choses, les catégories GAC pour les sauvegardes, pour certaines des catégories de fils et aussi les accès non exclusifs pour les GTLD. Depuis Buenos Aires, nous avons adopté un cadre de travail mis en place pour les conseils du GAC et aussi nous avons approuvé une approche de mise en place pour les génériques, les GTLD qui vont opérer de façon non exclusive. Ces choses-là ont clairé la voie pour d'autres applications. Je pense que maintenant, nous avons 22 candidatures qui attendent l'avis du GAC. Et cela va rendre donc beaucoup de gens heureux. Ces candidatures qui ont pu aller vers un contrat éventuel et vers une résolution. Donc, en parlant de résolution, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers avec le programme nouveau de GTLD, le guide des candidatures nous donne deux mécanismes pour résoudre les problèmes de résolution. Nous avons là aussi le système des enchères. Le mécanisme de CPE est disponible pour les candidats. Il y a, je pense, 32 candidatures qui peuvent choisir de passer par le CPA de façon à résoudre leurs problèmes. Et depuis vendredi, nous avons publié les résultats CPA pour ces candidatures. Beaucoup de travail. Donc, merci à l'équipe et félicitations à l'équipe qui s'en est occupée. Les résultats sont publiés sur la page CPA. C'était la façon la plus facile de publier ces résultats pour vous. Nous mettrons ça aussi sur la page des candidatures. Et en ce qui s'agit des enchères, c'est le mécanisme aussi disponible pour résoudre les problèmes, les contentieux. C'est un mécanisme de dernière. Nous avons donc publié les règlements des enchères et merci à tout le monde pour leur contribution d'ailleurs. L'équipe, la semaine dernière, a publié l'horaire des enchères et envoyer des notices des enchères. Donc encore beaucoup de progrès a été fait de ce côté-là. Je ne vais pas forcément relire cette diapo. Vous pouvez lire les progrès que nous avons fait depuis Buenos Aires. Nous savons que notre travail n'est pas terminé. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Nous savons que un des domaines où il y a encore beaucoup de travail à faire, c'est l'évaluation. Il y a encore beaucoup de candidatures qui attendent l'évaluation. Nous travaillons de façon très proche avec les candidats pour obtenir des conclusions. Il y a encore des objections. La majorité de ces objections ont été complétées, mais il en reste encore 14 cas d'objections qui sont en attente. On continue à surveiller, à contrôler cela. Nous pensons avoir des solutions. Les enchères, nous avons fait de gros progrès, mais nous savons qu'il y a encore beaucoup de travail à faire de façon à nous assurer que les enchères de juin soient réussies. Collusion des noms, c'est en phase de commentaires publics. Si vous voulez voir, vous pouvez aller voir sur le site et peut-être apporter des informations, le commentaire posé sur la proposition de commentaires pour faire face aux inconsistances, de la confusion les objections de confusion des fils. Et vous avez donc jusqu'au 3 avril. Pour les gens qui sont assis derrière, nous avons beaucoup de sièges devant. Si vous voulez venir vous asseoir devant, il y a encore de la place.
Nicole.
À part de toutes ces choses dont j'ai parlé qui a un impact sur ce programme, dans notre équipe, au niveau interne, nous travaillons aussi sur beaucoup de choses. Nous travaillons sur les manières d'améliorer nos processus internes de façon à être plus efficaces dans les processus de CP, par exemple, dans les contrats aussi de transition de délégation. Nous ne nous arrêtons pas. Nous savons qu'il y a des domaines où il y aura de l'amélioration à faire. Et il n'y a pas nous n'avons pas le temps de nous relaxer. Prochaine diapo. Alors, maintenant, nous avons passé à une partie de la présentation un peu plus détaillée. Nous allons vous donner des mises à jour sur les progrès que nous avons faits au niveau de la mise en place des candidatures. Oui. Avant d'aller de l'avant, je vais parler des statuts des applications. C'est comme ça qu'on peut présenter la présentation du moins. J'ai réalisé que nous avions fourni beaucoup de nouveaux statuts récemment et nous n'avons pas fait un très bon travail à expliquer en quoi retournaient ces statuts. Donc nous aimerions passer quelques minutes là-dessus. Le titre de cette diapo, c'est les statuts des candidatures et les rapports améliorés. Quand on a créé certains de ces statuts, si vous vous rappelez, pendant longtemps, les seuls statuts que vous pouviez voir sur le micro-site, c'était les statuts d'évaluation. Vous voyez maintenant que si l'application était en stade d'évaluation, si c'était une évaluation étendue, et toutes les autres choses. Donc, à la fin de janvier, nous avons rajouté quelques statuts nouveaux sur le micro-site. Nous avons ajouté quelque chose au niveau du contrat de relégation, introduction dans la délégation. Donc, encore une fois, d'autres étapes pour vous donner un peu plus de visibilité et de voir où en étaient les candidatures au-delà de l'évaluation. Mais la semaine dernière, je pense que c'est la semaine dernière, nous avons rajouté deux nouveaux statuts. Donc, en attente et ne va pas aller de l'avant. Ces deux statuts veulent dire en attente, cela veut dire que en attente, parce qu'il y a des activités qui sont en attente et des activités qui pourraient impacter, avoir un impact sur l'application, la candidature et aussi les responsabilités d'ICANN. Ça inclut un forum de commentaires publics d'ICANN sur un plan de mise en place d'une activité qui pourrait être reliée à ça. Et ça pourrait être n'importe quelle activité. Et ne va pas aller de l'avant. Ne va pas aller de l'avant, cela veut dire que cette candidature n'ira pas de l'avant à cause des résultats des processus de programme qui ont été complétés. Si une candidature a perdu une objection légale, donc cette candidature n'ira pas de l'avant, ne continuera pas. Alors, avec le statut de la candidature, c'est important de voir qu'elles ne sont pas finales. Elles peuvent changer, cela passer d'une étape à l'autre. Les seules exceptions sont les retraits, les statuts de retrait et les délégations. Ces statuts ne changeront pas. C'est une distinction importante. Ce sont les deux statuts que nous pensons être des statuts finaux. Mais les autres statuts peuvent changer, eux. Alors, pas approuvé et soutien des applicants. Pas approuvé, ça veut dire que l'application ne va pas continuer à cause d'une des résolutions qu'a passé le bureau des administrations de ICANN. Le bureau des directeurs ait donc accepté un avis du GAC pour ne pas approuver la candidature. Alors, applicant, le soutien de l'applicant. L'applicant n'a pas reçu le programme, n'a pas rencontré les demandes requéries sous le programme des nouveaux GTLD. Et ensuite,
remaining application statuses that reflect a program step that
les applications, donc les grandes lignes des statuts des candidatures. Donc c'est fini pour moi. J'espère que ça va vous donner un petit peu une ligne d'ensemble et vous donner un peu de contexte pour le reste de la présentation. Maintenant, je vais demander à Christina de venir et de vous donner les évaluations, les objections et les avis du GAC. Merci. Je m'appelle Christina Flores et je suis au département GTLD. Comme vous savez, nous sommes vis à la fin de la phase de l'évaluation du programme. Nous avions 1930 candidatures. Il n'y en a que 7 qui sont restées dans le processus d'évaluation. 150 ont été retirées et 1771 ont passé. Vous voyez que le chiffre d'application de candidature qui a passé n'inclut pas les retraits. Il y a aussi deux candidatures qui n'ont pas été complètes, On passe aux objections, comme on a déjà parlé. Nous avons fait beaucoup de progrès depuis Buenos Aires. Des 263 objections, 95% des cas ont été résolus, ce qui veut dire qu'il y a eu une détermination d'expert qui a été atteinte ou qu'il y a eu un retrait ou alors ça c'est une candidature qui a été terminée. Aussi, le 14 mars, nous avons mis à jour les statuts des candidatures et les ensembles de contentions qui ont été mises à jour pour refléter les résultats des objections. Nous irons nous parlerons en détail de cela un peu plus tard. Il y a aussi une vue d'ensemble des statuts, des objections. Les 14 qui restent, je voulais vous dire que il y a eu des problèmes et c'est ainsi que les objections ont été délai. Il y a eu un délai d'objection dans certains de ces cas-là. Voilà, maintenant, nous avons des informations sur les commentaires publics, le forum de commentaires publics dont on a parlé tout à l'heure, pour adresser des déterminations d'experts. Il y a une période qui va se terminer au 3 avril. Si vous voulez faire un commentaire, je vous encourage d'aller sur le forum et de faire un peu une révision des propositions pour soumettre vous aussi vos commentaires. Donc, on va passer au l'avis du GAC. Je pense que beaucoup de gens dans cette salle sont familiers avec l'avis du GAC. Je vais vous donner un peu d'histoire là-dessus. Ça fait un moment qu'on y travaille. Au communiqué de Pékin, l'année dernière, au mois d'avril, nous avons mis en place des sauvegardes qui s'appliquerait à une grande catégorie de chaînes reliées à la protection du consommateur et des marchés régulés. Et donc les chaînes sensibles et les marchés régulés. Ce que vous voyez sur la diapo vous montre les 386 candidatures pour les 196 chaînes qui ont été listées. Les chaînes sont catégorisées en 14 parts. Vous voyez 386 de ces candidatures ont été passées par la détermination de l'avis par le bureau de l'ICANN. Le seuil qui a été passé depuis Buenos Aires, HGPC a mis en place un cadre de travail pour les catégories 1. À haut niveau, cela souligne 10 sauvegardes qui vont être incorporées dans les accords avec le registre. Et cela, dépendant de si les chaînes sont listées dans telle ou telle catégorie, certaines sauvegardes seront incorporées dans les spécifications dans l'accord des registres. Il faut voir aussi que ce sont des termes qui sont non négociables et que ce sera automatiquement incorporé. Alors, deux autres notes sur l'avis de catégorie 1. Alors, comme on l'a dit, tout cela sera incorporé. On appelle ça des PICs. Font partie du PIC DRP, les procédures de régulation, de règlement. C'est le programme de conformité contractuelle. Cela résume toutes les informations que l'on a rassemblées durant l'année passée. Dans la prochaine grande catégorie de chaînes qui ont été incluses dans le communiqué de Pékin sont les catégories 2 et ce sont les avis de sauvegarde pour les chaînes qui sont représentées dans les termes génériques et l'accès du registre. Le diagramme de ce côté montre c'est un peu la façon dont nous mettons en place cet avis. 186 candidatures qui ont été affectées au départ. Nous avons passé par toutes ces chaînes qui étaient incluses dans l'avis numéro 2. Nous voulions voir s'ils auraient un accès exclusif ou si leur candidature qui avait été soumise au départ et de voir comment ils avaient l'intention d'opérer. S'ils ont continué dans le programme, et donc je pense que c'était au mois d'octobre l'année dernière, la vaste majorité d'entre eux d'ailleurs, et il y avait 12 candidatures qui voulaient opérer d'une manière exclusive. Et c'était inclus. Ils sont donc en attendant d'être considérés. Au milieu, comme vous voyez, les 35 candidatures qui disaient on ne va pas opérer en accès exclusif, mais leur candidature ne disait pas cela. Donc, nous avons demandé à ces candidats de changer les informations et de nous dire comment ils avaient l'intention d'utiliser leur registre. Et après, ils ne pourront donc continuer à aller de l'avant. Ici, il y a les réponses originales et les réponses comment ceux qui vont opérer dans l'intérêt public. Vous pouvez trouver toutes ces informations sur le microsite. La prochaine étape pour l'avis du GAPS, comme la vaste majorité est allée de l'avant, la seule chose que nous attendons maintenant, c'est que la considération du NGPC, les déclarations sur comment les 12 candidats vont donc opérer dans l'intérêt public. Il y a beaucoup d'informations là-dessus sur les avis du GAC. Et nous avons aussi donc publié un manuel à lire pour les candidats. Je vais passer le micro à Russ pour une mise à jour sur les contentions de chaîne.
Merci, Christina. Alors, avec tout le travail que l'on a eu pour l'actualisation des statuts et des processus, des objections, nous en sommes maintenant à l'actualisation des conflits de chaîne. Ce que l'on a fait, ou des ensembles conflictuels, ce qu'on a fait, c'est de comparer les résultats de ce qui a été fait il y a un peu plus d'un an concernant les ensembles conflictuels, voir les mises à jour sur ces ensembles conflictuels qui ont eu lieu jusqu'à présent. Et on en est arrivé à 234, nombre d'ensembles conflictuels qui ont eu un impact. Il y a eu de nouvelles candidatures, d'autres ont été retirées. Donc, certaines candidatures ont été ajoutées, d'autres retirées. Il y a eu de nouveaux ensembles conflictuels qui ont été créés. Donc, en tout, 233. Sur ces 233, il y en a 47 qui ont été résolus. 164 sont considérés comme des ensembles actifs. Certaines candidatures sont en suspens ou en attente. Et il y a encore des conflits qui demeurent aujourd'hui. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations, vous pouvez vous référer au guide que Christina a mentionné. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, avec tous les changements concernant les ensembles conflictuels, ce que nous voulions, c'était mieux communiquer cette situation à la communauté. Donc, nous avons voulu réélaborer le site web. Et maintenant, sur la page, nous avons ajouté ces ensembles conflictuels. Nous leur avons donné un nombre ou un chiffre. Nous leur avons donné un nom en utilisant les chaînes. Et donc, on indique le statut dans lequel il se trouve, en attente ou résolu. Et vous pouvez ensuite obtenir plus de détails sur la page web. Et vous verrez toutes les applications et les statuts actuels des applications. Et nous sommes également aperçus qu'il y a des ensembles conflictuels qui sont extrêmement complexes, qui ont été créés. Et vous pourrez obtenir donc des informations actualisées par rapport à ces ensembles conflictuels sur ce site web. Concernant les mécanismes de résolution de conflits de chaîne, le statut actuel est de 19 candidatures possibles qui sont en suspens et il y a des ensembles qui sont encore en attente. puisque ces ensembles, à mesure qu'ils deviennent éligibles, sont invités à poursuivre plus avant chaque semaine. Donc nous avons pour l'instant les quatre premiers résultats qui ont été récemment publiés et je crois que la semaine dernière nous les avons publiés et d'ici trois mois nous allons pouvoir mieux articuler ce travail. Donc pour résumer et reprendre un petit peu ce que nous faisons par rapport à ce processus et la raison pour laquelle nous voulons améliorer les choses par rapport à au moment où nous avons publié les résultats. Nous voulons définir les résultats pour le CPE, les quatre catégories, les liens entre les chaînes et la communauté, les politiques d'enregistrement description. Et nous avons demandé au panel du CPE de développer des lignes directrices pour nous aider à préciser à la communauté quels sont les processus d'évaluation qui sont mis en place et appliqués. L'évaluation est faite par notre panel CPE. Eux examinent les candidatures, les réponses qui sont faites. Et il y a un rapport qui a été publié la semaine dernière. Comme vous le savez, l'échelle qui est prise en considération pour fixer les priorités est très élevée. Donc, les CPE sont encore éligibles pour l'avenir, pour une résolution individuelle ou pour être mis aux enchères. Vente aux enchères. Nous avons beaucoup travaillé depuis Buenos Aires sur les ventes aux enchères. À Buenos Aires, la réunion du conseil d'administration nous a demandé de travailler sur les ventes aux enchères. C'est ce que l'on a fait. En décembre, nous avons donc organisé ce forum de commentaires publics. On a lancé ce forum en janvier. On a publié un rapport en février avec une analyse, des commentaires. Et nous voulions également mettre à jour les règles qui s'appliquent aux ventes aux enchères et mieux faire fonctionner ces ventes aux enchères. Ce qui nous a empêché un petit peu d'avancer sur l'actualisation de ce document, c'était le statut de cette question. Donc, on a revu le calendrier. Donc, nous avons publié un nouveau calendrier pour les ventes aux enchères à partir du 4 juin. La première vente aux enchères aura lieu, puis une fois par mois à partir de cette date. Et si donc ces conflits ne sont pas résolus par eux-mêmes, ils passeront aux ventes aux enchères. Donc si vous avez des questions sur ces ventes aux enchères, attendez peut-être la séance de mise à jour sur cette question. Je crois que Trey va nous parler maintenant des contrats. Merci. Trey au micro. Alors, contrat. Depuis vendredi dernier, nous avons invité 1094 candidatures à ce processus de contrat. Sur ce chiffre, 502 ont répondu à cette invitation. Donc, si l'on voit le taux moyen de réponse, il s'agit d'un taux de réponse de 46%. Et depuis longtemps, on avait un chiffre de 33%, donc c'est un meilleur taux de réponse. Et le taux moyen de réponse, le délai de réponse est de 37 jours. Donc, sur les 502 candidats qui ont répondu à notre invitation, nous avons envoyé 427 contrats pour signature. Je crois qu'en octobre de l'année dernière, lors de l'un de nos webinaires, j'ai dit que les cycles de processus de contrat étaient d'environ 3 semaines. Donc, si j'utilise cela comme référence pour les 427 contrats, ce que cela implique, c'est que 39% des 427 accords de contrat envoyés vont passer par ce processus qui va durer 3 semaines. 61% ne vont pas passer par ce processus. 61% vont le faire. Donc, 61% vont passer par un processus de 41 jours ouvrable. Pourquoi ? Parce que très souvent, les réponses sont incomplètes. Les candidats nous demandent des informations supplémentaires, ce qui implique des délais. Certains candidats veulent également négocier les termes et conditions du contrat, ce qui implique également un délai. Il y a d'autres conditions requises dans le contrat d'accréditation, par exemple les COI. Et dans certains cas, ces COI ne respectent pas le contrat d'accréditation. Donc, il faut dire aux candidats que ces COI doivent respecter le contrat avant d'élaborer ensemble un contrat d'accréditation. Donc, voilà un petit peu le type de raison qui entraîne un délai. Un délai, donc, dans ces 427 contrats qui, pour certains, vont excéder le processus de 3 semaines. Si l'on regarde maintenant ces chiffres à l'écran, sur ces 427 contrats que l'on a envoyés aux candidats, nous avons signé 358 accords depuis vendredi dernier. Je crois que la conversion ici est un bon chiffre. Nous aimerions que ce pourcentage se rapproche des 100%. Et donc, le délai d'exécution est de 13 jours. Y a-t-il d'autres chiffres par rapport au contrat ? Non. Alors, le code de conduite des opérateurs de registre. Ce code de conduite pour les opérateurs de registre constitue un ensemble de lignes directrices pour les opérateurs de registre qui sont liées à certaines opérations limitées concernant un registre. Ce code de conduite fait partie du contrat d'accréditation et s'applique à tous les opérateurs de registre, à l'exception de ceux qui sont prévus par l'ICANN. La semaine dernière, nous avons inscrit 65 questions soumises aux commentaires, 54 ou 55. Les 45 chiffres dont je vous parle figure ici à l'écran, mais il y a encore beaucoup candidatures qui ne sont pas encore complètes. Lorsque nous aurons toutes les informations nécessaires, nous pourrons les télécharger sur le site. Sur cet écran, vous voyez ici des liens pour trouver des informations sur ces
link to view all of the comments.
Ces exceptions. Vous trouverez également une foire aux questions, beaucoup d'informations qui vont vous encourager à en apprendre plus sur cette question.
Bonjour,
nous allons parler maintenant des activités pré-délégation. Il s'agit d'un test prédélégation et transition au processus de délégation. Test prédélégation. On avance relativement bien. Nous avons 266 de ces tests qui ont été achevés. 42 invités et 30 prévus qui ont respecté le calendrier de février-mars par rapport à ce processus de test prédélégation. Donc un rythme de 20 par semaine et on peut même augmenter ce rythme à l'avenir. Jusqu'à présent, on n'a pas encore atteint ce chiffre de 20 par semaine, donc il faut l'améliorer. Jusqu'à présent, depuis la semaine dernière, nous avons 20 tests qui sont en cours, 20 autres à partir d'aujourd'hui. Donc, nous pensons en obtenir 20 autres la semaine prochaine.
La transition délégation, comme je l'ai mentionné, 182 jusqu'à présent, donc du progrès depuis Buenos Aires. Cela dépend de l'éligibilité, bien sûr. Ce processus, en sortant de la phase contrat, processus, et ainsi de suite. Donc, il faut compléter le système d'enregistrement. Quand il faisait du testing de prédélégation, cela permet de faire que le processus soit assez rapide pour qu'il aille directement à la délégation. Ce n'est pas aussi rapide que ça, pas aussi rapide que nous l'avions pensé. Souvent, le onboarding n'est pas fini durant le temps alloué et ce ne va pas aussi vite que prévu. Je sais qu'il y a eu de la confusion entre les tests et pré-délégation et de la transition des activités de délégation entre les contacts des registres et des contacts primaires. Nous espérons que cela se remettra en place très rapidement. Quand les candidats passent à travers le processus, nous savons que cela prend à peu près 60 jours à partir de la signature du RA jusqu'à devenir un GTLD dans la zone racine. C'est ce qui se passe couramment et c'est un petit peu le temps qui est attendu pour ce processus. Maintenant, je vais passer Francisco qui va parler des conflits, des collisions, oui. Des collisions, des noms de collisions. Des collisions de noms, pardon. Francisco Arias, merci Ross. Je vais vous parler des activités de collision de noms. Nous aurons plus de détails. Et je vous encourage de venir à la session donc après et nous pourrons vous aurez donc la description exactement d'où nous en sommes maintenant. Et maintenant nous avons la version préliminaire du cadre de travail qui a été publié il y a à la fin du mois dernier. Et ça fait donc à peu près un mois qu'elle a été publiée. La période ferme le 21 avril. Si vous êtes intéressé sur le sujet, donnez-nous vos informations, bien sûr. La proposition est prévue pour dépasser ce que nous avons déjà maintenant dans l'accord. Nous avons une liste bloquée de blocs. Ce mécanisme va être remplacé par le cadre de travail d'une version préliminaire. Cela va permettre de réserver ou de ne pas déléguer trois chaînes, corp, home ou mail. Et home qui ne sont pas sur la nouvelle liste. Ils ont été approuvés par le NGPC en octobre l'année dernière. Donc, ce sera peut-être ça, des additions à la liste de chaînes qui ne sont considérées avec de trop grands risques. Donc, ils ne sont pas proposés pour la délégation. Les prochains éléments de ces nouvelles mesures sera d'une période de 120 jours durant laquelle il n'y aura pas d'activation de noms. C'est différent de la période courante qui est déjà définie dans le contrat. Ce nouveau processus va commencer si approuvé. Donc, le temps de délégation sera de 120 jours à partir du moment de la délégation. Aucun nom ne sera autorisé à être activé sous le TLD. Et aussi, durant cette période, il sera requis d'introduire quelques dates locales dans la zone TLD. Les gens recevront un IPR spécial particulier qui leur rassurera que aucun IS ne sortira. Tout cela sera représenté dans le même serveur. Pour que ce mécanisme sera pour ceux CLD qui n'ont pas été régulés. Ce sont déjà régulés, délégués, et leurs SLD ont déjà été introduits au record SRV dans les noms forts de la zone et dans le liste bloc SLD. Ainsi, nous aurons des records dans les cartes de records dans les TLD qui ont déjà des chaînes. Ce sera publié par ICANN afin d'éviter l'utilisation des wildcards autant que possible. Il faudra parler avec les experts en sécurité pour voir s'il y aura des problèmes sur les mécanismes qui sont proposés, par exemple avec les wildcards dans les TLD. C'est ce qui est donc proposé. Et venez donc à la prochaine session. Nous aurons donc ainsi plus d'informations et nous espérons avoir des questions de votre part. Aaron Hickman au micro. Merci Francisco. Je vais vous donner un petit résumé du Ibero programme et de la trademark Clearinghouse. Pour ceux qui ne connaissent pas le programme Ibero, c'est un programme de réaction d'urgence. Nous avons ajouté un troisième fournisseur dernièrement. Nominet a signé un contrat en février et ils vont être opérationnels en mai. Ils vont donc rejoindre Core et Scenic, qui sont nos fournisseurs actuels. Durant le dernier trimestre, nous avons été très occupés. Nous avons fait 2 ou 3 exercices en plus. Nous avons créé un registre de tests et nous avons fait un simulé d'échecs. Et je peux vous dire que l'exercice s'est très bien passé. Nous avons eu un effort de collaboration. Tout a été restauré efficacement. Les services clés ont été restaurés efficacement. Nous, les deux fournisseurs, ont bien travaillé. Donc, s'il se passe vraiment quelque chose, nous pourrons donc répondre de façon adéquate. En allant de l'avant, nous savons que nous devons ajouter quelques fournisseurs en plus à cause des zones géographiques. Nous avons un RFP en version préliminaire en ce moment qui devrait être publié le mois prochain. Nous avons pour but de finaliser au mois de juin et nous espérons leur faire des contrats et qu'ils soient opérationnels d'ici très peu pour que nous puissions les faire travailler dans des zones géographiques différentes. Quand il s'agit de le clearinghouse de marques commerciales, depuis ICANN 48, nous avons eu une augmentation de 15% au niveau des juridictions. Nous avons donc 15% d'augmentation. C'est les labels d'abus aussi sont en hausse de trois fois plus important, pardon. Les plaintes Sandrise qui ne sont pas encore des transactions. Nous pensons qu'il y a eu 100 périodes Sandrise qui ont été ouvertes, 50 plaintes. Cela fait près 21 000 transactions qui sont passées à travers ce système. Tout cela est soutenu par les registraires qui ont été certifiés par la base de données ont atteint 100. Je pense que d'ici la semaine prochaine, nous passerons un seuil plus élevé. Je vais passer maintenant la parole à Caroline Lance qui va nous parler des lancements des TLD, le programme de TLD. Je suis Karen Lance et je suis directeur des opérations et des recherches politiques à Cannes. Je vais vous parler des lancements des TLD depuis Buenos Aires. Nous avons fait plusieurs choses en ce qui concerne les processus mis en place pour les registres qui demandent un programme de lancement approuvé pour que cela soit à la suite de la réunion de Buenos Aires. Nous avons publié des grandes lignes, directives. Nous avons développé aussi une version préliminaire d'un programme de lancement qui a été contemplé. Il s'agit de développer un programme qui permettrait les registres d'allouer un certain nombre limité de noms à des tierces parties. Donc, nous avons développé une version préliminaire, un QLP. La période de commentaires ferme le 15. Donc, nous avons eu beaucoup de commentaires que nous avons pris en considération maintenant. Les commentaires, de façon générale, soutiennent le concept. Beaucoup de ces commentaires étaient des suggestions et nous regardons cela maintenant. Il y a une session additionnelle qui parlera plus sur le lancement des TLD qui va se passer cet après-midi à 17 heures. On est presque fini. Au début de la présentation dit Trang Nguyen, nous parlons de Buenos Aires. Maintenant, nous devons parler de Londres. Nous avons des chiffres là-haut. Je sais que l'équipe légale n'est pas très contente là-dessus parce qu'il n'y a pas de disclaimer, mais ce sont les objectifs que nous avons mis en place pour Londres, les étapes que nous pensons atteindre. Et d'ici la réunion de Londres, nous espérons en être à la 200e délégation. Je pense que ça, on peut y arriver d'ici Londres. 400 registres, accords de registres que nous pensons signer. Bien sûr, je pense que toutes ces choses, nous ne pouvons pas les faire nous-mêmes. Nous avons besoin d'aide de votre part. Mais ce sont certaines des choses que nous espérons faire et pouvoir vous informer là-dessus à Londres. La dernière présentation sur les programmes de variants IDN TLD. Et ensuite, nous ouvrirons pour la salle pour questions. Naëla, Sarah, ça va être court, c'est plutôt un peu publicité, c'est pas trop présentation. Je suis là, je m'appelle Naëla, Sarah, je suis le manager IDN à ICANN. Nous travaillons sur un programme qui s'appelle le programme variant TLD. Il s'agit des règlements pour la zone de racine IDN. Pourquoi DNS, par contre, la zone de racine DNS, pardon. Pour savoir, on parle des labels dans la zone racine. Tous les labels qui vont dans la zone racine, je pense que il y en a 182 jusqu'à présent. 22 d'entre eux sont des IDN. Ces labels sont évalués un par un pour des IDN. Nous regardons donc quels sont les règlements pour ces labels. Pour certains d'entre eux, nous avons ce que nous appelons un label variante. Nous n'avons pas vraiment une bonne définition pour ce que cela veut dire, mais vous pouvez voir ça comme si c'était un label qui est équivalent ou la même chose qu'un label de base ou un label primaire. Un programme a développé une procédure très compréhensible pour voir comment on a créé ces règlements. C'est vraiment un effort communautaire. C'est la communauté qui a créé ces règlements. Chaque communauté doit avoir son propre script, un panel de génération de scripts. Ils vont développer les règlements pour leur propre script et ils vont soumettre leur règlement à l'ICANN. ICANN a un panel d'intégration. Ils prennent les règlements et intègrent ça dans toute leur réglementation pour la zone racine. Et voilà. Donc, nous parlerons de cela demain de façon détaillée à 8h30 du matin. Nous donnerons donc une mise à jour du programme, parlerons de la communauté en question. Et dans l'après-midi, nous avons une autre session de 13h à 17h. Ce sera plutôt comme un marathon. Nous parlerons de tous les sujets et des procédures et vous expliquerons comment tout cela procède. Et tous les membres de la communauté qui sont impactés par les décisions que nous prenons. Et franchement, c'est parce que nous avons besoin de nous rassembler avec vous pour mettre en place ces règlements. Donc, il y aura encore beaucoup, beaucoup de détails à discuter pour voir quels sont ces panels, comment ils vont travailler, comment le travail va leur être soumis. J'espère que je verrai certains d'entre vous et j'espère tous d'entre vous. Mercredi. Ah non, j'ai dit demain. Non, en fait, j'ai l'impression qu'on est là depuis longtemps. Donc, cette session dont je vous parle prendront place mercredi à 8h30 et mercredi à 5h. C'est tout. J'espère vous voir là. On va revenir vers Tran. Merci, Nella. Tran Nguyen au micro. On va fermer donc la présentation et ouvrir la salle aux questions. Je suis sûre qu'il y a, ça va être difficile parce qu'à cause de la grandeur de la salle. J'espère que vous pourrez venir vers un micro. Tout le monde va venir à la table où il y a des micros et ensuite nous aurons des micros dans la salle pour les questions éventuelles.
So why don't we go ahead and start on this?
Si on commençait de ce côté-là, oui. En tant que la personne de micro, en tant que candidat CPE, quel est je suis désolée, quelle est votre question? La personne au micro, si j'ai fait une candidature et que je suis en échec vis-à-vis du CPE, quel est mon mécanisme pour un rappel? Le manuel ne fournit pas donc un mécanisme d'appel pour le CPE. Le mécanisme qui est disponible pour le candidat a été mentionné plus tôt. Une autre question de la personne au micro. Quel est le temps pour l'avis du GAC catégorie 2? Tran Nguyen, quand il s'agit du catégorie 2 du GAC, nous avons encore du travail à faire. Je pense que nous devons encore publier ou faire un forum de public commentaire pour voir... et parler des commentaires qui ont déjà été soumis avant de revenir avec ces commentaires. En fait, nous n'avons pas encore discuté un délai spécifique là-dessus, mais nous espérons y arriver d'ici Londres. Amadeo au micro, j'ai trois questions. Amadeo, Bril, quand il s'agit du taux de redélégation, de délégation, on parle du nombre par semaine. Est-ce qu'on attend 20 ou pas? Je ne sais pas. WJ, GIG, et nous avons quelques TLD qui ont passé la prédélégation bien avant Noël et ils sont toujours en attente. Ça a l'air d'aller plus rapidement que la délégation, surtout depuis Noël. Vers Christmas à Noël, c'était assez... ça a été assez rapide et on n'est pas trop sûr comment ça va se passer pour ceux qui attendent encore. Et quand est-ce que vous attendez une décision au niveau du forum de programme de pré-lancement et du programme de lancement final? Pas que nous sommes d'accord sur ces programmes, nous pensons que tous ces programmes ne sont pas forcément pertinents, mais encore une fois, comment pouvons-nous aller de l'avant comme il avait été prévu? Et au niveau de la priorité pour la communauté, j'ai des problèmes avec l'évaluation. C'est pas qu'ils sont en échec ou pas, mais ça a l'impression d'être tout ou rien. Est-ce que c'est 4 ou c'est 0? C'est 0, 1, 2, 3. Est-ce que c'est positif, possible? Ou est-ce que c'est maximum, minimum? Il n'y a pas de gris, quoi. C'est flou. Les gens disent, oh, ben vous avez une procédure, mais vous n'avez pas... vous n'avez pas un processus d'appel défini, détaillé. Est-ce que vous avez expliqué à ces gens-là les limites des questions, les 20 questions dans la tâche? Il y avait 5 questions jusqu'à la question 20. Certaines de ces questions ne sont pas complètes. Et il faudrait qu'il y ait plus de détails dans les réponses. Est-ce que vous avez adressé ces problèmes? Tran, au micro. Karen, tu veux répondre à la question? Karen, merci Amadeo. La question, c'était quels étaient les délais de temps pour résoudre le programme de lancement et les demandes associées à cela? Nous avons eu un nombre de personnes, de requêtes, donc de demandes individuelles. Comme Amadeo l'a dit, vous voulez savoir si ces personnes qui avaient posé, s'ils avaient mis leurs commentaires sur le PLP, le QLP. Pour répondre à votre question, nous pensons bouger assez rapidement. Nous avons lu les commentaires et nous avons développé une version préliminaire et aussi un rapport de commentaires publics. Nous avons 2 semaines pour y travailler. Ross Weinstein. Quand on parle du taux de délégation, nous gérons internellement des 1000 par année de délégation dans la zone de racine. Nous gérons donc à peu près 20 par semaine. La capacité, la flexibilité de travailler avec Yana, nous espérons gérer plus de délégations. Nous espérons, tant que nous en aurons 1000 par an, certaines candidatures ne vont pas de l'avant. C'est parce que, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est l'onboarding d'enregistrement qui n'est pas fait, l'intégration qui n'est pas faite. Et pour que quelqu'un aille de l'avant et qu'il soit distribué un jeton de délégation, son dossier doit être complet. Il faut que l'étape 1 soit complète. afin de pouvoir aller de l'avant avec la délégation. Nous avons que 4 candidatures dans la collision des noms et le reste n'a pas complété donc la phase d'intégration. Et quand on vient au point du CPA, nous avons fait une révision de leur travail, nous avons posé des questions et nous voulions justifier quels étaient leurs scores. Nous sommes confortables avec leur rapport. Les résultats ont été publiés. Nous pensons qu'ils ont suivi les critères qui sont identifiés dans les manuels. Chuan, pour ajouter quelque chose, le panel d'évaluation pour le CPA a regardé toutes les portions des applications de la candidature, pas seulement ce qui a été présenté par les candidats à la question 20. Ils regardent toute la portion publique de la candidature et quand il s'agit des résultats, ils font une révision indépendante basée sur les critères qui ont été publiés dans la candidature et c'est pas forcément indicatif de ce que va être le score pour le reste de l'évaluation.
Hello, dear Christian.
Question au micro. Monsieur Chevzlowski, en tant que directeur de projet pour les candidatures, on m'a dit que il n'y avait pas de questions idiotes à poser aux membres du personnel de l'ICANN. Donc, par rapport à ce processus de conflit de chaîne, vous voulez nous faire croire que, par exemple, la pomme et la banane sont si semblables que c'est finalement le même produit. On doit se contenter de cela. Et en même temps, vous dites que l'orange et la mandarine sont si semblables que vous ne pouvez pas les vendre ensemble pour les mêmes raisons. Donc, faire croire aux gens que les chaînes qui n'ont rien à voir entre elles et qui sont de toute évidence si dissemblables les unes des autres ne vont pas semer la confusion chez les consommateurs et que cela ne va pas fonctionner. On ne peut pas faire cela, faire semblant de ne rien voir, de ne rien écouter. Donc, pour éviter de tomber dans ce piège, j'aimerais que ce processus soit corrigé et qu'il n'y ait pas de décision erronée prise à cet égard. Deuxième point, par rapport au processus d'évaluation des priorités de la communauté. J'ai également été candidat. Nous pensons que le CPE constitue véritablement une boîte noire qui est assez difficile à appréhender. Nous n'avons pas la possibilité d'échanger avec eux ou on ne sait pas ce qu'ils ont pris en considération dans votre candidature. Donc, c'est vraiment très difficile de bien comprendre ce qui se passe. On ne sait même pas où est la personne qui évalue. Je sais qu'il y a une personne qui évalue pour chaque chaîne, pour chaque branche. Et donc, tout cela est très opaque, très sombre. On n'arrive pas à bien comprendre. Tranque au micro. Merci. Oui, concernant les critères de détermination pour les conflits de chaîne, vous savez qu'il y a eu un commentaire public, un forum ouvert le comité pour le nouveau programme GTLD a bien indiqué qu'il s'agit là d'une première étape et le résultat de, cette première période de commentaires publics va aider ce comité du nouveau programme GTLD à évaluer plus avant les processus en place. Et même si certaines décisions qui ont émané des procédures de résolution de conflits peuvent paraître sombres, c'est ce qu'on essaie de faire. On prend les choses une à une pour voir et s'assurer que tout le monde ici au sein de la communauté prend en considération tous les tenants et les aboutissants de cette question. John, au micro pour une question. Question brève. Concernant le système Barrow, vous avez parlé des conditions requises. Quelles sont-elles?
We're still actually determining.
En fait, on est encore en train de déterminer les conditions et les critères géographiques. Il faut s'assurer qu'il y ait une répartition géographique suffisante pour pouvoir répondre aux préoccupations concernant la protection des données. John au micro, alors c'est la dernière partie de ma question. Comment pensez-vous impliquer la communauté dans ce processus? Trang au micro. Si vous voulez bien, je vais noter votre question et y répondre plus tard. Merci. Question au micro, très brève. Pour les candidatures qui sont en attente. Pour certaines, on leur répond qu'elles sont en attente du processus de responsabilité. Mais on ne sait pas de quel type de mécanisme il s'agit et quel type de processus a été lancé ou commencé. Donc, comment obtenir plus d'informations sur cela? Réponse de Trang. Toutes ces informations sont publiées sur le site web de l'ICANN. Je peux vous donner le lien pour y accéder. Vous savez que les plaintes qui sont déposées auprès du médiateur sont confidentielles. On ne peut pas les partager avec vous. Oui. Amy au micro, je crois qu'il y a trois types de mécanismes de responsabilité qui sont disponibles, y compris le recours au médiateur. Il y a une révision indépendante également et les demandes de prise en considération une nouvelle fois. Donc la plupart des gens nous ont fait savoir s'ils ont fait appel au médiateur et si leur demande a été mise en attente pour plus ample examen. Donc, c'est en attente simplement pour continuer à évaluer le processus et les mesures à prendre pour nous assurer que nous comprenons bien tout ce qui est en jeu par rapport à une candidature en particulier. Question au micro. Donc, pour bien comprendre, certaines de ces candidatures ne savent pas ce qui se passe, mais elles savent simplement qu'elles sont en attente, ce qui veut dire que si rien n'est publié, l'autre partie a soumis quelque chose au médiateur. C'est bien cela? Oui, oui, effectivement. C'est le cas dans certains cas particuliers. Si vous avez une question spécifique sur un cas spécifique, je vous encourage à la transmettre au CSC et vous obtiendrez une réponse. Prochaine question. Et s'il vous plaît, veuillez vous présenter en posant votre question. Bonjour, Peter Vorgoldwerf de la Belgique, candidat pour GTLD. J'ai une question pour Karen concernant le programme de pré-lancement. Combien de demandes approuvées ont été acceptées pour ces programmes de lancement? Merci. Karen au micro. Donc, combien de demandes de pré-lancement avons-nous obtenues jusqu'à présent? Alors, je vais vous donner des chiffres de mémoire, hein, parce que je n'ai pas les chiffres devant moi. Jusqu'à présent, 25. Certains ont été retirés. Certains ont été refusés. Certains ont été mis en attente pendant la période de commentaires. Donc, il n'y a pas eu de d'accord formel jusqu'à présent. Bien, merci pour cette réponse. Autre question, est-ce que l'ICANN, en fonction du statut de ces 25, est-ce que l'ICANN veut continuer à améliorer ce processus? Parce que certains attendent encore une réponse formelle. Karen, au micro, est-ce que vous parlez des statistiques ou des réponses individuelles? Question non. Deuxième question. Jusqu'à présent, aucun programme pré-lancement n'a eu l'air d'aboutir, ce qui pourrait poser un problème aux candidats. Donc, je me demande si l'ICANN pense pense améliorer le processus actuel pour améliorer la demande des programmes de lancement. Karen au micro. Je crois qu'aucun candidat n'est sans ignorer les raisons pour lesquelles sa candidature a été rejetée ou est en attente. Donc, effectivement, il faut, si vous voulez que ce processus soit amélioré, je vous encourage à faire part de vos commentaires. Craig, au micro, j'ai une question par rapport à un échange que j'ai eu avec vous et une autre personne. L'une des premières questions a porté sur le suivi qui peut être fait à la suite des résultats du CPE. Je crois que soit on peut continuer à y travailler avec un autre candidat ou la vente aux enchères. Je crois que les mécanismes de responsabilité de l'ICANN ne sont pas disponibles pour les CPE. Réponse, si ces mécanismes sont disponibles avec l'Ombudsman pour les personnes qui pensent qu'elles n'ont pas reçu un traitement juste. Merci. Deuxième question ou commentaire plutôt par rapport à ce qui a été dit sur l'Ombudsman et son rôle dans le processus de responsabilité. Par rapport au processus de révision indépendant qui ont été très clairement définis, les délais également, l'Ombudsman semble être un trou noir. On ne comprend pas très bien quel est son rôle. Son statut, on ne sait pas non plus quels sont les délais. Donc, nous avons l'impression qu'il faudrait être plus transparent et que le mécanisme de responsabilité devrait être renforcé. En fait, il ne s'agit pas d'une question, mais d'un commentaire. Trang, merci. Maniam du Singapour. Et je viens d'une organisation qui s'appelle INFIT. Question. Pour les parties prenantes qui ont raté le premier cycle de candidature, quand a lieu le deuxième cycle? Ai-je été claire? Alors, le deuxième cycle de GTLD, Trang au micro. Il y a encore beaucoup à faire avant d'organiser le deuxième cycle. Je crois qu'il y a une série de séances, une séance sur les matrices pour définir les matrices, pour mieux définir le premier programme avant de lancer le deuxième programme. Nous n'avons pas encore de calendrier bien défini pour le deuxième cycle. Merci. Trang au micro. Je crois que nous avons encore quelques minutes. Donc, si vous avez encore des questions, envoyez-les par mail, mais nous allons fermer ici la liste des intervenants. Catherine au micro. J'ai une question concernant la spécification 13. Nous avons vu le dernier projet. Merci. Nous pensons que le LGPC va pouvoir s'y pencher cette semaine. C'est ce que nous espérons. Bonjour, Constantine de Dot Music. J'ai une question concernant l'accès exclusif. Je crois que tous les candidats doivent répondre aux questions financières qui sont consignées. Donc, doivent-ils resoumettre leur candidature financière parce que cela a un impact sur les perspectives et leur COI. Donc, je veux savoir si cela va être fait. C'est ma première question. Si ce n'est pas le cas, j'aimerais savoir pourquoi certains peuvent avoir le feu vert. Et ne pas être renoté en fonction du processus, parce que s'agissant du CPE, il y a des lignes directrices qui semblent être conflictuelles. Or, il devrait y avoir un processus transparent par rapport à, au nom des experts, par exemple. Par rapport aux résultats que vous venez de donner, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des résultats, des notes, et je ne vois pas ici de transparence. Également, les évaluateurs sont sélectionnés en fonction de leurs connaissances dans leur pays ou leur domaine d'activité. Donc, comment pouvons-nous connaître leur identité? Pourquoi est-ce que l'ICANN n'est pas transparent et responsable par rapport à cela? Je sais que beaucoup d'entre nous ont beaucoup d'expérience en la matière et nous aimerions que tout ce processus soit transparent. Et nous ne voudrions pas que tout ce processus perde une cohérence avec les lignes directrices. L'ICANN semble se cacher derrière le guide d'orientation ICANN et j'ignore la raison pour laquelle on ne connaît pas l'identité et le profil des évaluateurs. Merci. Merci, Constantin. Trang au micro. Par rapport aux avis du GAC, il est vrai qu'un certain nombre de candidats ont demandé des changements concernant leur candidature. Et lorsqu'on demande ces demandes de changement, on n'essaie pas d'interpréter ce que les candidats, quel est, pardon, le modèle commercial des candidats, parce qu'il faut bien comprendre que d'un côté, vous avez l'accès exclusif et de l'autre, vous avez l'accès non exclusif. Et dans l'intermédiaire, vous avez beaucoup de choses. Donc, il est difficile pour l'ICANN de prendre en considération une candidature, de l'examiner et de voir si cette candidature, finalement, est non exclusive ou pas. En tout état de cause, on ne force pas les candidats à actualiser leur information financière et ce n'est pas exclusif. Est-ce que cela va avoir un impact sur les informations soumises au préalable? Je ne sais pas. Non, je ne dis pas que cela a un impact ou pas. Je dis que si les candidats donnent ces informations ou pas, cela va en avoir un impact. Question micro. Je regarde ce processus où on est noté, on ajoute des choses. Par exemple, le guide d'orientation ne dit pas que le CPA et l'IUE, le IU, pardon, est supposé mettre en relation des entités qui nous ont soutenus. Donc, il y a incohérence ici par rapport à la candidature de la communauté qui est très claire. J'aimerais que ce processus soit plus transparent. J'aimerais savoir qui est responsable ici. Trang, au micro. Oui, effectivement, lorsque cette évaluation a lieu, dans certains cas, la réévaluation est nécessaire. Par rapport à votre deuxième question, CPE et transparence.
Constantine, Ross Weinstein au micro. Je pense qu'on ne peut pas vraiment répondre à cette question dans ce forum maintenant. Nous espérons vous fournir une réponse plus tard. Nous faisons attention quand nous sélectionnons les IU, les EIU et les panels d'experts pour le CPE et nous sommes heureux de voir leur progrès et d'avoir l'expertise qu'ils nous amènent dans ce processus. Beaucoup d'entre nous ne sont pas experts. Nous ne savons rien, dit l'intervenant Constantine. Nous ne connaissons rien. C'est fou des tas de gens qui ont passé beaucoup de travail là-dessus. Nous aimerions avoir un peu plus de guidage de la part de d'ICANN dans ce processus. Nous ne savons rien. Merci, dit Monsieur Weinstein. Nous prendrons cela en considération. John Nevett, merci, Trank. Je suis de Donuts. Merci d'avoir de ICANN et le personnel pour le travail difficile en faisant sortir 182 candidatures, 182 délégations en 4 mois. Je pense que ça a été assez rapide. Chuang, vous avez fait passer une diapositive tout à l'heure et vous avez dit que le but pour Londres était de 200. Donc, je suppose que ça fait plus de 18 dans les 3 mois prochains. Donc, une coupe de façon d'y arriver. Maintenant, nous avons un backlog, nous avons du retard à cause des testings de prédélégation. Comment est-ce qu'on rend les choses plus efficaces? Il y a 286 PDP qui ont déjà passé, 266 PDT qui ont déjà passé. Il doit y avoir une manière de rendre les choses plus efficaces pour que soit plus rapide. On fait des révisions sur la même chose encore et encore. Nous avons déjà passé 100 fois sur la même chose. Et notre backlog crée des backlogs pour tout le monde en plus. Donc de la part de tout le monde, surtout dans les catégories des gens qui attendent. Il faudrait que ce soit plus efficace. Il y a une course aussi à la délégation qui est basée sur la proposition des noms des collisions de noms. Il faudrait qu'on aille plus vite avant de passer à autre chose. Encore une fois, félicitations pour tout ce qui a été fait. Et nous apprécions aussi toutes les informations que nous pourrions obtenir du premier groupe. Trank, nous sommes dépassés notre temps d'une minute. Il y a une session qui va démarrer maintenant ici dans cette salle. Si vous pourriez être rapide avec votre prochaine question. John, la prochaine fois, vous devriez penser au format de la session et à la salle. Quand il s'agit du code de conduite, les exemptions, là, cette semaine et dimanche, il y aura 6 mois quand New Star a soumis son code de conduite. 6 mois. Donc cela fait longtemps, ça fait longtemps que ça aurait dû être fait, ça aurait dû être publié il y a longtemps. Mais quand il s'agit de la publication de cela, si vous regardez le document de processus sur le code de conduite, les exemptions du code de conduite, cela veut dire que le commentaire public veut dire qu'il y a, ça n'a pas satisfait à certains, 2 des 3 critères demandés. Et on aurait dû satisfaire cela avant d'aller vers les commentaires publics. Quand le spec 13 va sortir, s'il vous plaît, ne nous faites pas passer à travers ce difficile, cette exemption de code de conduite si difficile, de façon à satisfaire spec 3. Et aussi, pour les gens qui attendent les specs, peuvent les obtenir, les signer. Et c'est pour ça qu'on a du retard. D'ici Londres, il y a beaucoup de candidatures qui attendent ces specs. Trang, au micro. Vous avez une question au niveau de sur le site à demande, site à distance. Francisco Ariac, au niveau de l'aspect non technique, est-ce que les applicants qui sont déjà signés dans les contrats éligibles du chemin alterne de la délégation au lieu d'avoir une wildcard dans la zone entière depuis que le mécanisme est déjà dans le contrat? Excusez-moi, l'interprète n'a pas eu le temps de suivre. Francisco Arias, je pense que cette question... pour répondre à cette question rapidement, il y a donc un accord qui dit que l'ordre de travail a été approuvé, le registre sera sujet à cet ordre de travail. Amadeu, une question. Oui, je pense que pour Cyrus, j'ai entendu que les JO étaient... Les GEO étaient concernés, mais pas seulement les GEO. Donc, les questions qui incluent les informations du public, des données du WIS pour ces individus. Est-ce qu'on essaie de faire face à ça? Vous savez, depuis janvier 2013, la dernière chose que nous avons entendu parler de Cyrus, c'était que quelque chose qui avait été publié probablement avant Singapour... comme une procédure pour... Alors, Cyrus, oui, merci, Amélie. On va, répondre à cela sur le côté, parce qu'on a une session qui doit commencer dans cette salle et nous sommes déjà en retard. Merci, tout le monde.
Hello. We are about to start the name collision session.
Nous allons commencer la prochaine session, donc j'apprécierais vraiment que vous puissiez prendre vos sièges. Nous allons commencer très vite.
So I'm actually presenting one slide in this.
Yeah, sure.
So when I stand up in front, if you guys can give me some juice, that'd be great. Cool. Thanks, guys.
Hello everyone.
Bonjour à tous, je suis Francisco Arias des services techniques Taika. Nous allons commencer notre séance sur la collision des noms. J'ai également avec moi Dave Smith qui est responsable opérationnel